des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Docteur Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors ces espaces sacrés sont précisément délimités. C'est même le sens du mot temple. Et on peut l'entendre même dans un sens premier, les espaces naturels, ils avaient quand même des limites. Ils étaient circonscrits à un certain espace. Soit on était dedans, soit on était dehors. Et c'est aussi la différence entre le profane et sacré.
Oui, tout à fait. Comme vous le disiez lors de la dernière émission, la semaine dernière, il y a dans ces lieux, de temps en temps, des petits bruits bizarres, que ce soit ceux des fées, des elfes, des sorcières. Il y a des légendes qui courent, il y a des feux follets, il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a une sorte de magie, il y a un génie des lieux. Et dans ces lieux-là, il y a souvent aussi une mémoire. Hein. Et peut-être j'introduis la mémoire avant de revenir sur la question du temple, parce que cette mémoire, elle a une dimension à la fois universelle et personnelle. Hein. Vous évoquiez, si je puis me permettre, tout à l'heure, hors micro, avant que nous commencions, un espace qui vous était personnel, avec une maison familiale, qui n'a pas, au fond, à l'intérieur de lui-même, hein, cet espace-là aussi, qui est un lieu de mémoire. Mais il y a aussi tous les gens, et on voit ça à l'époque, j'allais dire, de Twitter ou de Facebook, ça paraît un petit peu étonnant, qui font le chemin de Compostelle, hein. Et de temps en temps, ce sont des gens qui ont une tradition essentiellement laïque, qui ont peu, éventuellement, une dimension, où il y a une dimension spirituelle dans leur cheminement, mais parfois pas du tout de connotation religieuse.
Hein. Alors là, voilà. dans le cadre du chemin de Compostelle, on est vraiment dans un espace totalement symbolique. Même s'il y a des chemins qui, historiquement, ont toujours été, et il reste néanmoins que là, on est dans quelque chose de très, très intériorisé, là.
Oui, mais est-ce que finalement, cette dimension symbolique, elle n'est pas là toujours, elle n'est pas presque toujours là?
Si,
il peut y avoir une dimension réelle au début. On avait parlé la semaine dernière de la magie du lieu, hein, le Mont-Saint-Michel, typiquement. De temps en temps, il y a des événements particuliers qui se sont passés, que ce soit un événement tragique de l'Holocauste ou que ce soit, je sais pas, la crucifixion à Jérusalem ou autre chose, où il y a une objectivité. Mais très vite, le contenu devient symbolique. Donc oui, moi je suis d'accord avec vous. Ce lieu-là est un lieu, mais il est un lieu symbolique dans le sens où il est le chemin. Voilà. Ce qui compte, c'est que il y a une aura imaginaire, et à partir de cette aura imaginaire, chacun va pouvoir construire son propre chemin. On voit ça aussi dans des choses beaucoup, beaucoup plus personnelles, comme une chambre d'enfant, comme, je ne sais pas trop quoi, des premières chaussures ou d'autres éléments comme ça. En tout cas, ces espaces-là sont des espaces mémoriels qui sont chargés de sens, loin de quelque chose qui serait éphémère, et où il y a toujours une charge de valeur, une charge émotionnelle qui nous dépasse. Une dimension donc universelle, transcendante, et pas simplement personnelle.
Mais pour revenir à notre sujet qui sont les espaces sacrés, il n'en reste néanmoins que la matérialité du sacré, que ce soit dans un objet, comme nous l'avons dit, qui représente aussi un espace quelque part, ou évidemment dans un temple qui est un espace fermé, a une importance primordiale. Et dans le cas d'un espace mémoriel, ramener un petit bout, une relique de cette mémoire, même si en elle-même elle ne représente rien, ça reste un objet, une matérialité de cette mémoire-là, et c'est important.
Oui, et on voit bien dans les petites reliques, hein, si on reprend votre mot, que ce soit un petit caillou qu'on a ramassé d'un lieu qu'on a immensément aimé, par exemple, et qui témoigne d'une histoire ou d'une personne, d'ailleurs. Hein,
comme voilà. Ceux qui ramènent un petit flacon de sable du désert, évidemment.
Voilà, voilà.
Ça représente pour eux tout le désert à la fois.
Exactement, exactement. Moi, pendant très longtemps, quand j'allais, je fais un petit peu ça, moins ça maintenant, encore que là, vous voyez, je suis allé à l'étranger il n'y a pas tellement longtemps, et j'ai rapporté un petit caillou, hein, un petit caillou absolument archi-banal. Simplement, c'est un caillou que j'ai trouvé à Delphes, voilà, et Delphes, c'est pas rien du tout. Ce caillou n'a strictement aucun intérêt, en plus, il vient peut-être d'ailleurs, il a été rapporté par une pelleteuse.
Peu importe.
Mais je m'en fous, c'était cette association. Donc en effet, il y a quelque chose. Ce qui me semble, c'est que par rapport aux reliques, il y a une dimension mémorielle, mais pour ce qui concerne le sacré, il y a quelque chose qui transcende le contenu symbolique. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir un contenu mémoriel pur, par exemple, vous avez pris un petit caillou de la maison de votre enfance, c'est pas obligatoirement quelque chose de sacré. Mais de temps en temps, ça va être sacré, par exemple parce que vous allez y mettre, enfin, d'une part parce que vous allez y mettre une charge émotionnelle, et deuxièmement parce que, par exemple, ça va vous rappeler vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents, une arrière-grand-mère ou une arrière-grand-père qu'on a connu ou peu connu. Et donc, à ce moment-là, ça vient dire quelque chose, par exemple, de la filiation, par exemple, de la transmission, par exemple, de « je suis le fils ou la fille d'un tel qui est lui-même le fils ou la fille d'un tel ». Donc, ça vient dire quelque chose d'une sacralité au fond de la vie, par exemple. Vous voyez,
hein ? Alors, docteur Dominique Michel, il ne faudrait pas cependant relativiser trop le sacré, et voir du sacré partout, parce qu'il y a aussi des petits sacrés, comme le petit caillou de la cour de chez ma grand-mère, et puis un sacré qui évidemment nous dépasse, parce qu'il va être à la fois collectif et puis vieux de plusieurs millénaires, comme soit un dolmen ou encore la cathédrale de Chartres. Donc le sacré, les espaces sacrés sont aussi rares par nécessité.
Oui, alors justement, ça permet peut-être de rejoindre ce que vous disiez à propos du temple, et on peut y revenir. C'est-à-dire, au fond, dans ce sacré-là, il y aurait à la fois une dimension personnelle et une dimension collective. Hein. Voilà, le petit caillou de chez votre grand-mère, et puis le dolmen à Carnac. Hein. Voilà, on est dans l'individuel et dans le collectif. Et en même temps, de temps en temps, le petit caillou peut renvoyer à une grande sacralité, parce qu'il va venir dépasser quelque chose qui est beaucoup plus vaste que simplement votre souvenir d'enfant, ou le mien, par exemple. Et de temps en temps, le dolmen en lui-même va être le lieu, il va perdre quelque chose de sa sacralité à partir du moment où on va pas le reconnaître en tant que tel, où il vient pas résonner à l'intérieur de soi-même, et il est juste un objet anthropologique, par exemple, qui va permettre de dire que, je sais pas trop quoi, à l'âge de bronze, on a fait ceci, au paléolithique, au néolithique, voilà ce qui se passait.
Hein. En tout cas, il y a une rareté de l'espace sacré.
Oui, il y a une rareté ou une singularité, on pourrait dire en tout cas, oui, mais sûrement en tout cas, c'est...
Mais parce qu'il fait la différence aussi avec le profane, évidemment, quoi.
Oui.
Tout n'est pas sacré et tout n'est pas profane.
Tout à fait.
Et c'est la raison pour laquelle ces espaces sacrés sont souvent clos.
Voilà, ils sont souvent clos, ils sont protégés de murs, enfin entourés de murs, protégés. Le lieu sacré ne peut pas être un lieu ouvert au monde. C'est pas possible. On peut pas rentrer comme dans un hall de gare. Ça n'est pas possible. Alors on revient un tout petit peu sur l'étymologie. Le mot temple, templum en latin, ça vient du verbe temno, qui veut dire découper, trancher. Ça, c'est très, très important parce que ce qui est la caractéristique du temple et au fond du sacré, c'est qu'il est séparé. Le lieu sacré est coupé du reste du monde. Et comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, il est coupé du reste du monde qu'on appelle profane. Hein. D'ailleurs, on en a parlé, mais fanum, c'est aussi le temple. Hein. Ce qui est profane, c'est ce qui est devant le temple. On en reparlera, je pense, plus tard. Et ce qui est dans le temple, c'est le fanum, et c'est le lieu qu'habite, par exemple, le fanatique, hein, qui est absolument possédé. Donc, il a une fonction. Il est d'ailleurs, en général, un lieu de sacralité, probablement un des grands espaces dans la mythologie chrétienne, ou judéo-chrétienne en tout cas, de la sacralité, c'est-à-dire ce qui a contenu la vie, c'est l'Arche d'Alliance. Hein, à un moment... On y reviendra, où on s'interrogera sur les liens entre le sacré et la mort. Voilà, au moment du déluge, où tout allait mourir, on a le divin a proposé la construction d'un espace complètement sacré qui était chargé de contenir toute la vie. À partir du couple, comme une sorte d'immense mère, M-E, accent grave, R-E, après une blessure. Et d'ailleurs, le mot paradis, qui vient de Pairidezza, c'est ça, hein, sur le plan de son étymologie. C'est-à-dire, c'est un lieu fermé, c'est une nature enclose, qui renvoie d'ailleurs à la nostalgie. Nostos, c'est le retour en grec, et algie, c'est la douleur, comme on a une névralgie ou une sciatalgie. Voilà.
La nostalgie d'y avoir été exclu, pour terminer votre...
Voilà, tout à fait. Et exclu et perdu.
Et perdu, en plus.
Qu'on ne récupère, au fond, que dans une dimension symbolique. ou à partir d'un petit objet qui est... Voilà.
Mais c'est important de le dire parce que toute l'ère romantique est basée là-dessus, sur un âge d'or.
Absolument.
Et d'où la neurasthénie profonde des romantiques, quand même, il faut le dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et il faut se rappeler que sur le plan de l'histoire, puisqu'on a parlé la dernière fois des Lumières, que probablement le romantisme, c'était aussi une réponse aux Lumières. C'est-à-dire, les Lumières se sont dit, voilà, c'est carré, c'est comme ça, la raison. Et les romantiques ont dit, non mais il y a aussi autre chose, il y a l'imaginaire, il y a la passion, il y a l'amour, il y a la mort, il y a le désespoir. Voilà, oui, c'est tout à fait important.
Alors, le but, je ne sais pas si c'est le but, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, ces lieux sacrés sont faits pour qu'on y aille et pour méditer, pour prier. Ils deviennent des lieux de silence et d'intériorité pour celui qui s'y rend, évidemment.
Oui, on n'entre pas en effet dans un lieu sacré comme dans une gare. Il y a un rituel, on se déchausse dans les temples hindous, dans les mosquées, on se découvre dans certains temples, dans d'autres, par exemple, on se couvre, au contraire, le crâne. Donc ce lieu sacré est en effet un huis clos où la transcendance est en quelque sorte présente et où elle nous convoque. Il y a d'ailleurs dans la topographie du lieu souvent quelque chose de cette verticalité qui renvoie donc à cette transcendance avec le minaret, le clocher, dans une certaine mesure peut-être le gratte-ciel, en tout cas la montagne. Il y a quelque temps, vous aviez relu un texte sur la montagne où voilà, des habitants tout en bas découvrent qu'il y a une fumée tout en haut et ils vont construire au fond une route, un escalier pour monter tout en haut. Et où là, comme probablement sur Compostelle, ce qui compte, c'est d'ailleurs avant tout le chemin.
Oui. Donc, Oui, je veux dire, on monte effectivement vers le lieu sacré, et c'est pour bien montrer symboliquement qu'on se rapproche du ciel, j'imagine. Mais cela aussi demande un effort physique, et on sait combien le geste, le corps, est lié à la spiritualité, dans une non-dualité d'ailleurs corps-esprit, vraiment, le corps est lui-même spiritualité, dans presque toutes les religions du christianisme au zen.
Oui, tout à fait. Tout
et donc,
à fait.
C'est ce que je voulais dire par là, c'est que tous ces espaces ne font que porter cette idée-là que le corps a son importance, au même titre que l'esprit, parfois même plus. Par exemple, dans le zen, il n'y a que le corps qui compte, dans le sens où il n'y a pas de dogme, où il n'y a pas d'enseignement. Il faut simplement faire les bons gestes.
Oui, tout à fait. On voit ça, par exemple, dans toutes les traditions de circumambulation, c'est-à-dire où on tourne autour.
Le fameux labyrinthe de Chartres.
Voilà, le labyrinthe de Chartres, la Kaaba aussi dans l'islam, et puis aussi tous les cloîtres. Tous les cloîtres, c'est ça, c'est-à-dire on va avoir un temps de prière, un temps de réflexion, un temps de silence en tournant autour du cloître. En plus, en général, au centre du cloître, il y a un rond. Et donc, on retrouve toute une symbolique du rond dans le carré ou du carré dans le rond. Donc, on voit bien là aussi qu'il y a deux opposés qu'il s'agit de réunir. Et au fond, dans cet espace sacré que sont les monastères, il y a ce lieu-là, en effet, où là, c'est le corps, au fond, qui
prie, qui agit, prie, quoi. Ouais,
voilà,
qui
voilà.
Agit,
c'est-à-dire qui est saisi. Je ne sais pas s'il pense. Je dirais peut-être il est saisi, en tout cas, par une sacralité. C'est le corps qui est saisi par une sacralité et pas l'émotion et encore moins probablement la pensée.
Ouais. Alors, dans ces espaces sacrés, il y a encore des espaces sacrés. On n'aura pas la possibilité de décrire, par exemple, le temple de Jérusalem, comme il était fait, ou parce que à la radio, ça serait déjà pas facile. Mais on sait que depuis l'Égypte antique, il y avait des espaces sacrés dans l'espace sacré, et l'ultime espace sacré, évidemment, est interdit même aux croyants, quoi. Il est réservé aux grands prêtres. Et on sait, nous l'avions cité dans une précédente émission, ce qui pouvait arriver à ceux qui n'étaient pas consacrés et qui entraient dans ces espaces-là, c'était la foudre leur tombait du ciel directement.
Oui, tout à fait. On sait que tous les lieux sacrés sont interdits. Comme vous le disiez, dans le temple de Jérusalem, il y a le Saint des Saints et seul le grand prêtre a le droit d'y rentrer. Et encore une seule fois par an au moment de Yom Kippour. Et il y a des tas d'autres espaces comme ça. Si on repense par exemple même à l'église, à la construction d'une église, Il y a le narthex, il y a la nef et il y a le chœur, par exemple. Hein. Et ces espaces sont des espaces séparés. Le narthex, c'est pour ceux qui ne sont pas baptisés. La nef, c'est pour les baptisés. Le chœur, c'est que pour les clercs. J'ai appris d'ailleurs qu'il n'y a pas très très longtemps que c'était au temps de Louis XIV que les jubés avaient disparu. Vous savez, les jubés, c'est ces espèces de grandes constructions, le plus souvent en pierre, qui ensuite ont été détruits donc au moment de, je sais pas, Louis XIV, on va dire, il est mort en 1715, donc je ne sais pas à quelle période c'était, et où la majorité des jubés ont disparu. On trouve par exemple dans la cathédrale de Toulouse, il y a encore un jubé en pierre qui est toujours présent. Voilà. Donc il y a aussi en effet des espaces séparés.
Alors, certains lieux, néanmoins, deviennent aussi sacrés à cause des événements qui s'y sont déroulés. Auschwitz, Verdun, on en avait parlé un petit peu. Ces espaces sacrés, il y a aussi une histoire qui est forcément qui est autour. Alors, cette histoire, elle est perdue pour la plupart des espaces aujourd'hui, mais toute la mythologie antique, elle a conservé. On sait pourquoi Delphes est sacré, pourquoi Rome est sacré.
Oui, en tout cas, il n'y a pas à proprement parler, par exemple, puisque vous convoquiez Delphes, là, dans notre échange. Et il se trouve qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'étais à Delphes, c'était la première fois que j'y allais. Et vraiment, il y a en effet une sorte de magie et aussi de sacralité du lieu. Il n'y avait pas de religion grecque à proprement parler. Hein.
Non, mais il y a toute une histoire pour expliquer pourquoi Delphes, cet espace est sacré.
Oui. Et puis, le lieu est absolument extraordinaire. Il y a une vue sur une vallée. Enfin, j'ai encore les images très, très présentes à l'intérieur de moi-même. Alors, de temps en temps, vous parliez d'histoire. On sait que, de temps en temps, il y a une forme de sacralité presque laïque. Je prendrai l'exemple des ambassades, vous voyez, par exemple. Hein, on sait très bien que l'ambassade est un lieu privilégié, un tout petit lieu, qui, dans une certaine mesure, bénéficie d'une extraterritorialité. C'est-à-dire, il est le lieu du pays qu'il représente. Et que, de temps en temps, des gens qui sont en situation de danger peuvent aller se réfugier dans l'ambassade. Et évidemment, la sécurité apportée par l'ambassade renvoie à une sacralité laïque qui est reconnue par tous, hein, parce qu'autrement, c'est pas tellement compliqué d'envoyer un quart de CRS pour déloger celui qui se serait réfugié dans l'ambassade, mais on ne peut pas le faire.
Mais est-ce que c'est encore de la sacralité ou c'est simplement la loi qui est comme ça
Oui, je pense que c'est d'abord et avant tout la loi ou les règles internationales.
Voilà, les règles internationales.
Mais cette règle internationale, elle repose sur quelque chose qui a une immense valeur. Hein, c'est-à-dire, c'est le territoire de l'autre, mais et je le respecte.
La patrie, tout de suite, on convoque des concepts.
Donc, il me semble, dans ces cas-là, c'est une petite sacralité. Hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Ça ne va pas, en tout cas, pouvoir être argumenté par la raison. Non, c'est comme ça. Voilà. Et ce lieu est sacré, et je m'arrête. Voilà. Et je m'arrête avant ce lieu-là. Donc, au fond, l'ambassade, c'est comme une sorte de petit temple laïque, hein, on pourrait dire. Voilà. Donc, il y a le profane et puis il y a le sacré. Le dissident ou celui qui a révélé certaines choses s'est réfugié dans une ambassade et le pays qui est représenté dans cette ambassade lui accorde une certaine forme de sécurité.
Il peut y avoir également des temporalités sacrées qui sont éphémères. Vous donnez l'exemple des Jeux Olympiques. Pendant un certain temps, il va y avoir cet espace qui est entre guillemets aussi sacré. Mais une fois que la compétition s'est terminée, le stade retrouve son caractère profane.
Oui, il y a eu, c'était à Berlin, je crois, hein, un attentat contre la délégation égyptienne, la délégation israélienne.
Okay.
Hein, à Munich, c'était à Munich, voilà, oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans ce lieu-là, des Jeux Olympiques, il y a quelque chose aussi d'une petite sacralité, au fond. Hein, c'est-à-dire, on va reconnaître à cet espace et à ce temps, le temps des Jeux Olympiques, la nécessité, en effet, qu'il y ait quelque chose qui soit respecté. Il paraît que les mauvaises langues, je ne sais pas si c'est corroboré, disent que les Chinois ont obtenu que des Russes qu'ils n'envahissent pas l'Ukraine avant la fin des Jeux Olympiques. Alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose de terrifiant dans une telle parole. Et en même temps, on voit bien que au nom de cette petite sacralité des Jeux Olympiques, on peut retarder l'émergence d'un conflit.
Une autre forme d'espace sacré qui est à la fois laïque et puis éminemment spirituel, ça va être les musées, le Louvre a un caractère sacré, certains tableaux. On ne ferait pas n'importe quoi avec la Joconde.
Oui, alors.
On ne dessinerait pas des moustaches, j'espère.
Oui, peut-être. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dessiné des moustaches, mais en tout cas, pas sur le tableau lui-même. Il me semble que, j'avoue que je n'ai jamais tellement réfléchi à cette question de cette fascination. Mais peut-être je vais vous parler d'autre chose, du coup. Peut-être moi, la Joconde n'est jamais un tableau qui m'a énormément fasciné personnellement. Voilà. Mais je pourrais vous parler, par exemple, de l'Angélus de Millet. L'Angélus de Millet, c'est un tableau dont j'ai vu des reproductions plusieurs fois, enfin peut-être au moins deux fois, je me souviens de deux fois en Afrique noire, et une fois dans un pays d'Asie, je ne sais plus, voilà, j'ai vu dans un hall d'hôtel, cette représentation. Peut-être nos auditeurs se rappellent de ce tableau de l'Angélus de Millet, pour dire qu'il peut y avoir là une sorte de sacralité cachée. Ça représente un paysan et une paysanne qui sont sur un champ. Et puis, devant, il y a une sorte de panier avec des fleurs. Je crois que Millet il y a deux ou trois exemplaires de ce tableau-là. Et ce tableau-là est extrêmement, extrêmement fascinant. L'autre élément qu'on peut dire, c'est que Salvatore Dalí, il a fait des copies à sa façon de ce tableau, de manière extrêmement nombreuse. Je ne sais plus, peut-être il y en a 6 ou 8 comme ça. Et donc, ça intrigue de se dire que ce tableau-là, il est très très connu dans le monde entier, peut-être autant, peut-être, je ne sais pas, presque autant que la Joconde. Et alors, des gens se sont interrogés là-dessus. Et on a fait des radios profondes de ce tableau. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert qu'il y avait un repentir. C'est-à-dire que, sous le panier de fleurs, en fait, il y a une tombe d'enfant. Et ça va nous permettre peut-être de faire une transition pour une autre fois sur le rapport entre le sacré et la mort. C'est-à-dire que, au fond, c'est comme si les gens, en voyant ce tableau, savaient que cet homme et cette femme se recueillent, et ils se recueillent pas simplement parce que c'est, vous savez, ça s'appelle l'Angélus du soir, pas parce que c'est la nuit qui va tomber, mais parce que là, il y a la mort d'un enfant, et que cette mort d'un enfant, elle est toujours bouleversante. Salvatore Dalí a refait cette toile-là, et vous savez que Salvatore Dalí, il avait un frère aîné qui s'appelait Salvador, et quand il était petit, sa mère l'emmenait au cimetière, et il voyait sur la tombe Salvatore Dalí, hein, voilà, qui était son frère aîné. Voilà, donc alors je ne sais pas si trop il y a la même sacralité au Mont-Saint-Michel et dans le Louvre, mais en tout cas, on peut penser qu'il y a quelque chose, en effet, qui aussi nous saisit. Peut-être c'est une petite sacralité d'ordre esthétique, mais on sait bien que le beau, c'est un des chemins d'accès à la transcendance et probablement au divin.
Oui, et peut-être même le plus direct dans beaucoup de cas.
Oui, peut-être.
En tout cas, il y a cette foule qui va être attirée par ces lieux-là, alors pas de la même façon évidemment pour le musée du Louvre que pour d'autres grandes manifestations. Je pense à celle du 10 et 11 janvier 2015 pour les attentats contre Charlie Hebdo. Oui. Ces lieux-là deviennent sacrés aussi. Est-ce que les bureaux de Charlie Hebdo prennent aujourd'hui un caractère sacré? On a envie de penser que oui.
En tant qu'objet, je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce qu'ils deviennent d'ailleurs.
Évidemment, par rapport à ce qu'ils représentent.
Mais en tant que lieu mémoriel, probablement. Hein. D'ailleurs, on sait bien que cette période-là a marqué l'histoire de la France et qu'elle n'est probablement pas du tout prête de disparaître de nos mémoires. Je crois que on a vu en tout cas le sursaut populaire, en tout cas au mois de janvier 2015 que vous évoquiez, et qui vient dire, en tout cas sûrement, qu'il y a quelque chose qui est tout à fait essentiel. Mais je pense que dans le musée et dans le temple, il y a quand même une radicale différence. Mais peut-être il y a une sacralité, on pourrait dire religieuse, dans l'église, et il y a une sacralité laïque dans le musée.
En tout cas, ces lieux sont préservés, ils répondent à des critères précis, à des lois, aussi bien l'église que le musée, hein, on fait pas n'importe quoi dans un musée. Et on se souvient du texte de l'Exode, où les prescriptions relatives à la construction du sanctuaire et à ses ministres sont reprises dans des détails, tous les détails y sont mis, et sont reprises deux fois, exactement de la même manière, une fois en disant « tu feras », et la seconde fois, chaque prescription commence par « il fire ». Tout est codifié et ouais. Tout est extrêmement précis dans ces lieux sacrés.
Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. On ne fait pas n'importe quoi dans un lieu sacré. Tout lieu sacré est interdit aux personnes ou aux gestes qui seraient qualifiés d'impurs. De temps en temps, ces lieux sont interdits aux non-initiés. Au Mont Athos, on n'accepte pas les femmes. On n'invite pas les non-musulmans à la Mecque. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de non-tibétains à Lhasa, au Tibet. Il n'y a pas non plus d'étrangers sauf invités dans les loges maçonniques. En effet, là, on retrouve aussi cette question de la séparation, hein, entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors.
De l'exigence aussi. De la puissance de la valeur que l'on met dans ce sacré-là et de l'exigence que cela demande.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. À partir du moment où les choses sont porteurs de sens, ils sont toujours porteurs d'un cadre et en effet d'une exigence. Je vais reprendre votre mot, hein. Dans les temples, dans le temple grec, on peut d'ailleurs bien le voir, hein, il y a le naos et le pronaos, hein, et dans le temple de Jérusalem, on en a parlé tout à l'heure, il y a le Saint des Saints. Je me souviens très bien, une fois, j'étais dans la cathédrale de Strasbourg et j'étais monté un petit peu dans le chœur pour prendre une photo, je me souviens plus très bien. Je m'étais fait un peu un d'Irlandais et jeté dehors parce que probablement celui qui était là pensait que je n'étais pas initié. Voilà. Alors peut-être il était un petit peu coincé de quelque chose comme ça dans son rituel, mais peut-être je lui ferais crédit que lui, pour lui en tout cas, cet espace-là était un espace sacré qui était peut-être celui des clercs et pas celui du laïc que j'étais. On sait que chez les orthodoxes, par exemple, hein, l'iconostase est inaccessible aux laïcs. Hein. Voilà, on n'y va pas, on peut le regarder d'un petit peu loin, mais on n'y va pas.
Docteur Dominique Desmichel, notre émission va s'achever avec ce dernier lieu sacré qui n'est pas des moindres. Nous en reparlerons la semaine prochaine, qui est le cimetière, qui lui aussi est éclos de murs et qui, évidemment, est un lieu on ne peut plus sacré.
Oui. Et qui renvoie évidemment au lien entre le sacré et la vie et la mort.
Un grand merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci Simon, au revoir. Thank you.